oui, c'est le printemps. C'est même la journée internationale de l'eau. Alors, faut pas s'étonner qu'il nous en tombe dessus. Le printemps amène avec lui plein de désirs. Comme là, moi, ce matin, je suis de bonne humeur, je suis contente parce que je me dis... Et vous remarquez, cette eau lave, nettoie les rues. Ça nous donne des envies de faire le ménage. Et ça nous donne surtout des envies de magasiner. Il y a des visites libres, d'ailleurs, qui vont être organisées toute la fin de semaine à Montréal et dans la région. Ça donne certainement à quelques-uns qui nous écoutent l'envie de déménager. Vous vous êtes peut-être dit, en calculant vos affaires, au loyer que je paye, je trouve bien de m'acheter un condo ou peut-être une petite maison ou un duplex pour essayer de m'aider à payer mon hypothèque. Alors, est-ce que c'est le bon temps de déménager? Est-ce que c'est un marché d'acheteurs en ce moment, l'immobilier? Est-ce que la région de Montréal et le Québec, c'est toujours un bon endroit pour investir son argent en immobilier? Et surtout, la grande question... En avez-vous les moyens? Pour en discuter, Martin Provencher, qui est investisseur et développeur immobilier, il a écrit entre autres « L'immobilier en 2025 ». C'est un visionnaire, visiblement. Merci d'être là, Martin.
Merci, ça fait plaisir.
James Martel est courtier immobilier chez Remax DC à Repentigny. Merci, James, d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Est-ce que c'est un bon moment pour investir son argent dans l'immobilier? On a eu la bourse là, dans les derniers mois qui nous a tellement fait pester. On voyait notre argent baisser. Les gens qui mettent de l'argent dans leur REER en se disant c'est mieux un REER qu'un duplex, parce que souvent, hein, on oppose les deux, ont certainement regretté d'avoir fait ce choix-là du REER. Est-ce que l'IMO pour vous deux reste vraiment toujours l'idéal? Ben, Martin?
Moi, je ramène toujours les gens à deux créneaux, là, c'est-à-dire que d'une part, il faut se loger. Donc, est-ce qu'on investit en immobilier pour avoir un toit au-dessus de la tête? Est-ce qu'on sort de notre appartement puis on s'achète une propriété? Ça, effectivement, c'est encore un excellent moment en ce moment pour acquérir une propriété. Pour investir, ben là, ça dépend du créneau. Mais effectivement, si on compare ça à la bourse, les deux dernières années, il y a comme pas eu de rendement. Puis même moi, j'ai eu un appel, un message qui en était presque drôle. Mon conseiller à la bourse était fier de me laisser un message pour dire que malgré les soubresauts, je n'avais pas eu de perte. Fait que quand on évite de perdre de l'argent et ça devient une bonne nouvelle, peut-être qu'on peut regarder d'autres options. Par contre, acheter un Plex en 2019, ça, c'est moins certain que c'est un bon investissement.
Ah!
Ben oui, parce que en fait, c'est parce que...
Plex, un duplex, un triplex?
Ouais, c'est ça.
Ou un siplex, là.
Ouais, c'est qu'au Québec, on a 272 000 petits propriétaires qui ont 2, 3, 4, 8 unités de logement chacun. Donc, c'est très, très fractionné comme marché. Contrairement à ailleurs, en Amérique du Nord, où vous avez quelques propriétaires qui ont des centaines, voire des milliers d'unités de logement. Donc, eux, c'est des business. Donc, ici, au Québec, comme le marché est très fractionné, les gens sont très en concurrence entre eux. Mm-hmm. Et... on le voit facilement. Actuellement, on est en période de renouvellement, puis c'est ça aussi qui part le bal et des premiers acheteurs. Actuellement, si on se promène sur à peu près n'importe quelle rue à Montréal, on voit que les affiches à louer ont tous des numéros de téléphone différents, donc les propriétaires sont en concurrence entre eux, puis ils ont absolument besoin de louer parce que la majorité des gens ont acheté au cours des dernières années alors que le prix de l'immobilier est très élevé. Parce qu'on est dans une situation complètement particulière actuellement. C'est du jamais vu. C'est que ça fait 20 ans que ça va bien. Mais il y a quelque chose d'anormal dans le fait que ça fait 20 ans que ça va bien. Ça fait 20 ans que les taux d'intérêt sont super bas.
Je peux-tu te citer là-dessus, Martin, ce matin?
Ouais,
il y a quelque chose d'anormal dans le fait que ça va bien.
Oui, depuis une si longue période. Non,
mais
je suis
hors contexte,
c'est
cocasse quand même.
Mais c'est cocasse, mais en même temps... Il faut comprendre que la majorité des gens sont entrés sur le marché il y a 5, 10, 15 ans et tout ce qu'ils ont connu, c'est cette période d'âge d'or que vous pouvez acheter n'importe quoi, attendre un peu, puis ça avait pris de la valeur. Mais ça devrait être un petit peu plus compliqué que ça. Et moi, je pour la première fois cette année, il y a des spécialistes autres que moi, des gens qui s'occupent de macroéconomie puis qui font des conférences, par exemple, de la SCHL, ainsi de suite. Mm-hmm. À chaque année, depuis 20 ans, parce que moi, je suis en immobilier depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 48, là, fait que j'en ai assisté des conférences. Puis au cours des 20 dernières années, ils disaient toujours, cette année, ça va bien et on prévoit que l'année prochaine, ça va aller très bien aussi. Puis à chaque année, ils disaient ça. Puis là, cette année, ils ont dit, cette année, ça va très bien aller. L'année prochaine, on n'est pas sûr. Ça, c'est la première fois que j'entends ça depuis bien longtemps. Puis c'est pour ça que je dis, à quelque part, il y a quelque chose d'anormal dans le fait que ça fait 20 ans que ça va super bien. Parce qu'à un moment donné, il devrait avoir un ralentissement, un atterrissage ou une légère correction. Puis là, ben, on sent qu'on arrive dans un tournant. Puis cette semaine, on a beaucoup de nouvelles macroéconomiques. Ben, en partant, on a deux budgets back-à-back, fédéral, provincial, let's
go. Mardi, le fédéral, pour ceux qui ont raté ça. Ouais. Hier, le provincial. Ouais.
Puis là, on voit le retour du balancier, parce que ces dernières années, le fédéral a mis plusieurs freins au marché immobilier pour resserrer les critères d'admissibilité. Puis là, hop, on vient de repartir dans l'autre sens.
Voilà. On va en parler de ça. Je voudrais avoir l'avis de James Martel là-dessus. Vous êtes courtier immobilier depuis 10 ans, en ce moment avec Remax d'ici à Repentigny. Ça va bien, mais là, c'est drôle parce que Martin nous dit, quand ça va bien, c'est douteux et peut-être l'année prochaine, ça ira moins bien. Est-ce que vous sentez ça, vous, James, qu'il y a comme quelque chose qui est en train peut-être de se passer?
Ben, disons que effectivement le marché va très bien. Il va vraiment vraiment très bien en ce moment. Les transactions augmentent partout. On est en offre d'achat multiple dans plein de secteurs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça irait moins bien l'année prochaine? Honnêtement, j'assiste moi aussi à beaucoup de conférences. On l'entend toujours un peu. Bon, l'année prochaine, on n'est pas nécessairement certain qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, tous les resserrements qu'il y a eu à travers le temps. Nous,
mais Martin, il dit que d'habitude, on n'entend pas ça.
Oui, mais quand même, on peut l'entendre, tout dépendant du nombre de conférences auxquelles on peut assister. Là, c'est vrai que le marché va extrêmement bien. Moi, quand je suis rentré dans le marché il y a à peu près 10 ans, on disait wow, là, on a des cycles normalement d'à peu près une dizaine d'années, fait que ça devrait commencer à moins bien aller. Puis là, 2008, on a eu le crash aux États-Unis.
Ben ouais.
On aurait dû s'attendre à avoir un marché qui était plus baissé, puis finalement, on l'a pas eu. C'est comme si on a carrément sauté un cycle. Là, maintenant, est-ce qu'on va arriver dans un autre moment?
Mais le crash de 2008, c'était que aux États-Unis.
Ouais.
Ça
absolument.
Nous a pas affecté non. du tout, parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, les hypothèques résidentielles des gens sont déductibles d'impôts.
Ouais.
Alors ça, c'est extraordinaire pour eux. Puis il y a personne qui est incité à rembourser son hypothèque de quelque façon que ce soit aux États-Unis. Puis là, ça allait tellement dans toutes les directions que se sont mis à prêter de l'argent, même à du monde qui se qualifiait pas pour acquérir une propriété. Puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est fragilisé. Puis là, quand ils se sont aperçus que c'était fragile, ils ont décidé de faire des packages d'hypothèques douteuses puis de vendre des titres de propriété.
Bon, ouais, à des gens qui n'avaient pas de crédit. Là.
Bon, c'est ça. Fait que là, il y a eu une correction. Mais
ils se sont ramassés à dormir dans leur voiture. Ouais.
Non, c'est ça. On l'a pas eu
ça, ici.
Mais ça doit dépendre aussi, la façon de voir le marché, ça doit dépendre aussi avec qui tu te tiens. Vous êtes un courtier immobilier, James, c'est sûr, vous n'allez pas me dire ça va moins bien aller, on va moins vendre. Mais en même temps, quand on regarde en ce moment, là, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit ben moi, j'ai un petit montant, pas beaucoup, on va y venir, à combien on doit mettre de mise de fonds. Mais quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Est-ce que j'achète quelque chose ou je reste locataire? Vous dites, James, probablement, ben magasiner et acheter quelque chose si c'est possible.
Ben, en fait, tout dépend de la qualité de vie qu'on veut aller chercher, puis le secteur où est-ce qu'on veut habiter. T'sais, peut-être que dans certains secteurs, ça serait mieux de louer que d'acheter.
Comme Montréal, par exemple, vous diriez quoi?
Ben, tout dépendant. On parlait des plex. Est-ce que c'est un bon investissement? Parce que majoritairement, à Montréal, on va retrouver des plex.
Ils sont chers, les plex, en ce moment.
Ils sont chers, effectivement.
On
va être en cash flow négatif. Là. Ouais. On va devoir débourser de l'argent à chaque mois. Faut pas se dire que j'achète un duplex, finalement, ça me coûtera rien, ou un triplex, même un quadruplex. On va être en cash flow négatif. Il va nous manquer de l'argent. Mais quand même, les locataires vont nous aider à payer notre hypothèque. Puis ça va peut-être nous apporter la qualité de vie dans le secteur qu'on veut. Puis comme on
le veut habite dans le logement.
Habite dans le logement, si on est propriétaire occupant, tout dépendant.
Exactement. Si on achète un plex en 2019 comme propriétaire occupant, comme il y a un cash flow négatif, puis avoir un taux au-dessus de la...
Cash flow négatif, peut-être expliquer.
Ça veut dire
les
que les revenus des locataires ne couvrent pas l'ensemble des dépenses à tous les mois. Donc, il y a un manque à gagner que les gens doivent renflouer. Moi, j'ai des professeurs, par exemple, là, de cégep ou peu importe, là, des gens qui travaillent à gauche, à droite, qui achètent un plex. Donc, c'est pas des propriétaires occupants, c'est vraiment des investisseurs qui veulent acheter un triplex, puis qui m'écrivent pour me dire, ben il y a 500 $ qui manquent à chaque mois.
Mais ouais.
Moi, je le paie en me disant, ben là, ça va finir par prendre de la valeur, mais c'est parce qu'entre les deux, les gens calculent pas non plus l'investissement en temps qu'ils doivent faire. Fait que ça, c'est du bénévole immobilier.
Ah, c'est sûr.
Puis ils doivent sortir de l'argent pour maintenir à flot leur duplex ou leur triplex. C'est pas très excitant.
Mais il faut bien calculer, parce que si tu rajoutes 6 000 par année de ton argent, là, dans le fond, tu vas faire vraiment ton argent sur la plus-value éventuellement, s'il y en a une.
Ouais.
Mais là, c'est que tu...
Mais c'est parce que
tu spécules. Ça, c'est la spéculation.
C'est ça, mais quand il y a beaucoup de gens qui doivent sortir de l'argent chaque mois...
Ouais.
Est-ce que les propriétés prennent vraiment de la valeur dans ce créneau spécifique-là des
Mais est-ce que vous êtes en train de dire, James, par exemple, ça vaut la peine d'acheter un duplex ou un triplex si tu es propriétaire occupant, mais en bas de ça, dans une région comme Montréal, par exemple, tu es mieux de regarder d'autres choses?
Ben, en fait, il faut regarder tout le potentiel de l'immeuble et du site en tant que tel. Ouais. Peut-être qu'il faut regarder pour une reconversion de l'immeuble. Peut-être qu'avec un duplex, on va faire une maison unifamiliale, puis là, la demande, il y en a tellement pas, mais... Dans le fond, la demande est là, puis les gens vont être prêts à payer beaucoup plus cher que ça. Évidemment, il va y avoir des travaux à faire, il va y avoir des permis à demander.
Ouais.
Mais on peut... moi, je travaille avec des investisseurs qui font des projets complètement magnifiques. Ils achètent les propriétés, ils les reconvertissent, puis ils font énormément de profits. Mais la demande...
À Repentigny ou... Repentigny-Ville-d'Avenay?
Ça peut être à Repentigny. En fait, moi, je me spécialise beaucoup avec les acheteurs, fait que je couvre un grand territoire. Fait que je vais aller à Montréal un petit peu partout. J'étais à Verdun hier en offre multiple. J'étais à Pointe-aux-Trembles hier aussi en offre multiple. Et à La Plaine hier aussi.
Qu'est-ce que vous appelez
une
offre multiple?
Donc, c'est plusieurs offres d'achat qui sont déposées en même temps sur une propriété. Donc, quand on est vendeur, c'est le fun, parce que là, on a l'embarras du choix.
Ben oui.
Mais quand on représente un acheteur dans cette transaction-là, il faut évidemment avoir les meilleures conditions, puis avoir la meilleure offre possible, puis être capable de bien vendre son client directement au vendeur.
Est-ce que vous trouvez que les gens, les futurs acheteurs, semblent être au courant de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont assez d'infos, les gens? Est-ce qu'ils vous paraissent informés?
La bonne réponse, ça serait « ça dépend ».
Ouais.
Ça serait vraiment ça. Parfois
ça
oui, parfois non.
Ouais.
En fait, ça va dépendre des recherches qu'ils ont fait, puis ça va dépendre de l'accompagnement qu'ils vont avoir aussi, tant au niveau du financement que de l'inspection, que de la recherche de propriété directement. C'est important d'avoir une bonne équipe.
Parlons-en du financement parce que, bon, Martin Provencher le disait, là, les règles changent régulièrement. L'année dernière, bon, ou il y a deux ans, je pense qu'on avait resserré au fédéral les règles de la SCHL.
À plusieurs fois.
Bon, ouais. Et là, cette année, au fédéral, ils ont dit, bon, ben finalement, on va encourager surtout les acheteurs d'une première maison.
Ben, c'est souvent ceux-là qui sont encouragés parce que c'est eux qui partent le bal. Parce que quand les gens sont déjà propriétaires, ils ont amassé une certaine équité. Quand on parle d'équité, c'est que la propriété qu'ils ont achetée a pris une certaine valeur. Puis pendant ce temps-là, ils ont capitalisé. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leur remboursement hypothécaire à toutes les semaines ou à tous les mois, il y a une portion qui va sur le remboursement de la dette. Donc, entre la propriété qui prend de la valeur puis la dette qui diminue, on comprend qu'il y a un écart qui se creuse. C'est ça qu'on appelle l'équité. Quand ils revendent, ils récupèrent cet argent-là. Et là, ça donne un bon levier pour acheter la prochaine. Donc, la problématique, c'est souvent de partir le bal avec les nouveaux acheteurs qui, eux, peuvent avoir certaines difficultés à entrer une première fois sur le marché. Mais une fois qu'ils sont là, après ça, ils ont l'effet de levier pour continuer. Fait que c'est souvent, les incitatifs gouvernementaux sont souvent ciblés envers les acheteurs de première propriété pour leur permettre d'entrer sur le marché. Puis là, c'est ce qu'on vient de voir, puis probablement que le gouvernement fédéral, en étant dans une année électorale, ça a dû un petit peu aider à penser que ce serait une bonne idée.
Ouais, d'améliorer les conditions pour les futurs acheteurs. On va d'ailleurs, après la pause, expliquer ce que sont ces nouvelles règles et de quelle mesure ça pourrait vous aider, vous qui peut-être regardez en ce moment à devenir propriétaire pour la première fois. Et on va reparler également du REER, qui peut être un outil pour investir une partie dans une mise de fonds. Il y a des conditions. Puis surtout, ben, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Est-ce que le printemps vous donne des ailes? Surtout des envies de déménager, soit d'investir dans une propriété. Quand on regarde un peu ce qui se fait quand même sur le marché de Vancouver puis de Toronto, on va revenir d'ailleurs sur les comparatifs avec mes invités. On regarde Montréal ou la région ou au Québec, parce qu'il y a Montréal, mais il y a tout l'extérieur qui est bien intéressant aussi, là où on nous dit c'est peut-être pas Montréal, il faut que tu investisses. C'est peut-être justement peut-être à Repentigny ou on nous a dit Granby. J'avais le maire de Granby dernièrement. Lui, il dit venez-vous-en. On a de la place, on a des maisons, on a des duplex, on a plein de beaux projets. Tout le monde tire la couverte un peu de son côté. Vous me direz alors en faisant le 514-790-9850 et sans frais partout, le 1-866-790-9850. Alors, on parle de propriété peut-être potentiellement achetable pour vous, chers amis, avec ce qui se passe en ce moment, les nouvelles règles qui vont peut-être vous encourager à devenir propriétaire, entre autres au fédéral, on va en parler. Je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment les moyens de devenir propriétaire? On a Catherine qui a une question pour mes invités. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Martin Provencher, qui est investisseur immobilier, et de James Martel, qui est courtier immobilier. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Quelle est votre question?
En fait, moi, j'ai une belle offre sur la table. C'est mes beaux-parents qui m'offrent de me vendre leur maison, mais au prix de 10 ans. Donc, au prix où ils l'ont payé. Ça me fait penser que j'ai donc les moyens, mais je suis quand même craintive parce que c'est ma première maison, ce qui est un peu trop grande pour moi, mais la famille va finir par venir, donc peut-être pas si grande dans 5 ans.
Quel âge avez-vous en ce moment?
30 ans.
Avez-vous un petit peu d'argent? Avez-vous une mise de fonds?
Bien, si c'est ça, j'ai des REER, j'ai un bon salaire. C'est possible d'avoir la mise de fonds dans mes REER, mais est-ce que c'est... Ça fait beaucoup de trucs à rembourser. REER plus l'histoire avec le gouvernement fédéral qui te prête 5 % jusqu'à la vente, là, quelque chose comme ça.
Oui, oui.
Martin, peut-être. Donc, votre question, c'est quoi exactement, Catherine?
Bien, en fait, est-ce que d'acheter une maison au prix de 10 ans, mais la revendre dans 5-6 ans, fait en sorte que je vais vraiment capitaliser un bon montant ou c'est encore trop spéculatif pour...
Non, mais là, Martin, dans le fond, toi, tu as la chance, dans le fond, de revendre potentiellement dans 5 ans, mais de faire comme si ça faisait 15 ans que tu l'avais. Là. Fait que là, c'est comme si, exact. Dans 5 ans, quand tu en auras 35, c'est comme si tu avais acheté cette maison-là quand tu en avais 20. Alors, jusque-là, wow. Moi, je me poserais pas vraiment de questions. Là. Je me dépêcherais de signer puis de peser fort s'il y a 3 copies.
Et de dire merci papa-maman, c'est ça?
Les beaux-parents.
Les beaux-parents. Merci, les beaux-parents.
Bon, fait, ça, c'est une belle opportunité, je pense. T'as 30 ans, c'est un bel âge pour entrer sur le marché, tu sais ce que tu fais. Puis en plus, t'as les bonnes conditions, tu sembles dire que t'as un peu d'économie, t'as un bon travail, t'as l'air d'une femme qui sait où ce qui s'en va, là. Donc, avoir un peu peur quand c'est la première fois, c'est un peu normal, c'est même sain, mais faut pas hésiter, là.
Donc, c'est un go, Catherine! Merci à vous. Pour ceux qui ont des questions d'ailleurs à nos invités, vous pouvez faire le 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On parle d'immobilier ce matin, alors toute question qui s'y réfère, bien sûr, mes invités James Martel, courtier immobilier, et Martin Provencher, investisseur et développeur immobilier, pourront sans doute y répondre. Puis dites-moi, est-ce que vous pensez que vous avez assez d'argent pour devenir propriétaire? Quand on regarde des fois le prix des logements, des fois on se dit le calcul n'est pas si long à faire. Est-ce qu'il y a des règles qu'il faut... Quelqu'un qui est en réflexion, là, qu'est-ce qu'il doit se dire en ce moment, James puis Martin?
Quelqu'un qui est en réflexion pour acheter, là?
Oui.
Donc, il doit premièrement se poser la question, quel secteur? Où est-ce qu'il veut acheter directement? Puis là, voir un peu qu'est-ce qui est disponible, commencer à faire ses recherches directement et aller chercher une préapprobation hypothécaire. Vraiment, de voir jusqu'à où il peut aller là dans son financement. Ça, c'est vraiment important. Ça peut faire toute la différence dans la présentation d'une offre d'achat directement.
Faut analyser, Martin, aussi ses besoins en habitation, comme l'auditrice qui vient de téléphoner dit, bon, là, la famille va s'agrandir. Donc là, pour l'instant, la maison est peut-être un peu trop grande, mais dans quelques années, ils n'auront pas besoin de déménager parce qu'ils auront eu 2 enfants entre-temps. Donc, les gens peuvent se demander, est-ce que j'ai l'intention d'avoir un bureau à la maison? Est-ce que j'ai besoin d'un atelier, d'un garage? Faut prévoir ces choses-là tout de suite parce que sinon, on peut peut-être acheter une propriété qui, dans quelques années, ne nous conviendra plus. Et comme il y a des frais à l'entrée, des frais à la sortie, donc il y a des frais pour faire la transaction, il y a des frais pour la défaire. Donc, il faut éviter d'acheter et revendre là, sur des coups de tête sans se poser les bonnes questions.
Il y a des frais pour la défaire, tu vois, ben, quand tu vends...
Ben oui, il y a des frais de quittance. Ouais, ouais. Parfois, il y a des pénalités aussi si on vend avant la fin du terme.
À la banque, oui, c'est ça.
Exactement.
Mais c'est surtout, combien d'années il faut garder une propriété là, pour que ça soit... Ça
le
commence
plus longtemps possible.
C'est ça, parce que la taxe de bienvenue, par exemple, il faut que tu l'immobilises sur une couple d'années. Si tu vends un an ou deux après, ça te coûte cher ces deux premières années-là.
Mais ça, c'est quelque chose, justement, parlant de la taxe
de bienvenue. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ouais.
Ça dépend.
Le droit de mutation.
Ça dépend du prix que tu as payé. C'est ça que tu allais me dire.
Ça dépend de plein de choses, mais ça dépend sur tout ça. Oui.
Le gouvernement a ajouté la possibilité pour les municipalités d'ajouter deux autres paliers de taxation pour les droits de mutation. Donc, jusqu'à maintenant, c'était... 0,5% pour 0,50 000. Là, ils ont indexé légèrement, c'est 51 400 pour être exact. Et de ce montant-là jusqu'à 250 000, on est à 1%. Puis, passer 250 000, c'était
1,5%. Ouais. Puis là,
Ils ont ouvert la porte à 500 000 si ça vous tente, certaines municipalités. D'ailleurs, Montréal l'a fait.
Ouais.
Ils ont ajouté un palier de taxation. Je crois que c'est 2%.
2%, oui.
Puis 1 million, c'est.
Donc, tu es en train de me dire que la taxe de bienvenue augmente, là, c'est ça?
Oui. Elle est augmentée, oui.
Moi, je ne peux plus, sérieux. Là.
Non, mais c'est parce qu'ils ont ajouté.
Avez-vous lu le journal ce matin? Avez-vous vu que la taxe. Puis je vais en parler la semaine prochaine, je ne pars pas là-dessus, mais je suis juste un peu fru ce matin. Il y a tout le temps quelque chose qui me tombe dessus tous les matins. Ce matin, c'est la taxe d'eau. As-tu vu que la mairesse de Montréal qui veut. Elle veut tester l'eau, c'est le cas de le dire, cette journée internationale de l'eau. Elle veut voir si les citoyens de Montréal sont prêts à des échos, à une éco-fiscalité plus accrue. En d'autres mots, voulez-vous payer plus de taxes? La réponse est non. Et une taxe d'eau, encore moins.
Ben, s'ils garantissaient que l'eau goûterait moins ou sentirait moins
que le chlore. Merci. Ouais. Non, mais ça...
Parce que moi, j'ai un puits artésien. C'est de l'eau limpide. J'ai un bureau à Montréal. Puis quand j'ouvre le robinet, j'ai l'impression de boire l'eau de mon spa.
Oui, exact, t'as raison. Puis là, tu es en train de nous dire qu'en plus, la taxe de bienvenue augmente.
Bien, à Montréal,
à Montréal, c'est déjà ça, là.
500 000, c'est... À partir de 500 000, là... Puis là
tu payes combien, mettons, sur une propriété d'un demi-million en taxe de bienvenue? Ah, James va nous calculer ça en bon agent immobilier. Mais non, mais sincèrement, puis ça, c'est un... Ça, c'est une taxe à l'achat, là, on s'entend?
Oui, bien, c'est une taxe de transaction. Fait qu'à chaque fois qu'on achète, qu'on revend... Écoute, moi, j'ai un développement de terrain. Il y a des gens qui ont changé d'idée, que je suis redevenu propriétaire de leur terrain parce qu'ils ont décidé de prendre un autre terrain. Ils ont changé de terrain à l'intérieur du projet.
T'as repayé une taxe
de... Eux ont payé la taxe de bienvenue sur le terrain. Moi, j'en suis redevenu propriétaire quelques jours. J'ai repayé la taxe que j'ai revendue à quelqu'un d'autre. Qui a payé encore la taxe. Fait que ça fait trois taxes de bienvenue en quelques jours. Puis la personne, l'acheteur numéro un qui avait acheté le terrain, qui avait payé la taxe de bienvenue au début, il l'a repayé sur l'autre terrain à côté qu'il a décidé d'acheter à la place. Là, parce qu'on a fait un changement. Ça fait que ça fait quatre taxes de bienvenue juste pour changer de terrain.
Et c'est du terrain, il n'y a même pas de maison dessus.
Non.
Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle, par contre.
Parce que ça coûte moins cher. Payes,
vu que c'est un droit de mutation sur la transaction, ben, une fois qu'ils ont acquéri le terrain, la maison qui vient dessus, il n'y a plus de droit de mutation.
Non, mais on
mais quand ils vont revendre l'ensemble de l'œuvre une fois bâti, le nouvel acquéreur, lui, il paie sur la totalité de la propriété.
Calcul de James?
Vraiment. Donc, j'ai pris un exemple pour une propriété de 550 000 $ à Montréal. La taxe de bienvenue serait de 6 930 $.
6 930 $?
Oui, puis si j'augmenterais peut-être avec une propriété de 750 000 $, on tomberait à 10 930.
Oui, tu devrais.
Puis là, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher les freins à l'acquisition d'une propriété. Cherche pas, mon ami. Cherche pas. Taxe de bienvenue, c'est un maudit frein, ça.
Ça fait partie des projets qu'on entend parler depuis des années de éventuellement, peut-être hypothétiquement, l'enlever. Mais on s'entend que c'est assez rare qu'il y ait une taxe qui est implantée depuis.
Ils l'enlèveront jamais. Ils savent plus quoi faire pour nous en rajouter.
C'est comme les impôts. C'était temporaire.
C'est épouvantable. Fait que sur un plex, je pense Rosemont, je regarde, moi, j'adore checker l'immobilier. Je vois dans Rosemont, là, minimalement, là, c'est 550. T'as des affaires à 700 000 piastres. Là, t'as du 10 000 $ de taxes de bienvenue en plus de tous les autres frais de ton hypothèque et tout. Puis ça, c'est... Tu te payes tout de suite, là. Puis si tu le payes pas tout de suite, tu peux pas mettre ça dans... Il faut que tu le payes tout de suite d'un coup.
On le dit souvent, les taxes, c'est le pire endroit pour se financer. Si les gens le payent pas tout de suite, il y a des pénalités, il y a des intérêts, ça va vite.
En tout cas, c'est vraiment dommage de... François. Bonjour, François.
Oui.
On vous écoute.
Ben moi, dans le fond, j'appelle parce que moi, j'ai mon propriétaire où je demeure, je loue une maison. Parce que j'ai 6 enfants. C'est un petit peu tough, mettons, trouver un appartement avec 6 chambres. J'ai décidé de me louer une maison, mais là, mon propriétaire veut me la vendre. Sauf que le problème, c'est que justement, de ramasser le cash, y a-t-il des moyens?
Ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre de répondre justement avec les nouvelles règles. Martin, peut-être là-dessus?
Bien, d'abord, il y a le régime d'accession à la propriété là, qu'on appelle le RAP, puis qu'on a même conjugué en verbe parce qu'on peut rapper, là, mais dans le sens de prendre de l'argent dans son REER. Donc, c'est se financer soi-même. Ça, c'est un programme là, que j'ai toujours trouvé fabuleux, exceptionnel,
et sous-utilisé, génial. Sans doute.
Sous-utilisé, méconnu, parce qu'il y a toutes sortes de stratégies aussi en arrière de ça qu'on peut exploiter pour devenir propriétaire. Ça permet d'aller chercher aider à aller chercher le 5% qu'on a besoin minimalement, qui va exiger ensuite un assureur hypothécaire, là, parce qu'en bas de 20%, c'est dans la loi des banques canadiennes, on est obligé d'avoir un assureur hypothécaire, c'est-à-dire un intermédiaire qui garantit que si jamais les choses tournent mal, l'institution financière ne va pas perdre.
C'est ça, la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement.
Ça, c'est l'assureur hypothécaire, gouvernemental, mais il y en a aussi au privé qui existe, là, comme Genworth, par exemple.
Oui, François.
La seule chose qui se passe, dans le fond, c'est que moi, mon employeur, j'ai un REER avec mon employeur. La seule chose, c'est qu'il l'a barré. J'ai pas le droit de rappeler dessus.
Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ça.
Oui, ça arrive, par exemple, avec le fonds de la FTQ. Tu sais, il y a certains REER qu'on ne peut pas rappeler.
Ah ouais, parce que la FTQ, eux autres,
la FTQ puis le fonds de la CSN aussi, tu peux pas le sortir. C'est ça. Ils donnent, c'est plus avantageux, mais c'est pris là, jusqu'à la retraite.
Mais par contre, vous pouvez emprunter pour vous constituer un REER en parallèle. Okay. Et 90 jours après, vous pouvez rapper, là, c'est-à-dire reprendre cet
argent-là.
Arrête
donc! Tu peux faire un prêt. OK, donc là, ce que tu suggères à François, c'est qu'il va à la banque, il emprunte de l'argent.
Ouais.
Il le met dans son REER.
Ouais, il touche un retour d'impôt.
Il y a un retour d'impôt donc là-dessus. Et ben pas tout de suite, mais dans sa prochaine déclaration d'impôt.
Ouais.
3 mois après, 90 jours, il ressort cet argent-là.
Qu'il utilise comme mise de fonds.
Ça, c'est malin, ça.
Ouais, puis là, on avait droit...
Ça, c'est le conseil du jour, Martin, je pense.
Ça fait plaisir.
Ouais. Ça fait un bon conseil.
Puis là, jusqu'à maintenant, ce qui est le fun, c'est que vous aviez droit à 25 000 par personne. Fait que ça veut dire que ce qu'on vient de dire, ta conjointe, si t'en as une, là, pourrait faire la même chose. Fait que là, vous étiez à 50 000 ensemble. Puis là, c'est là que le gouvernement...
Hey, grosse cabane, mon François! À 50 000,
ouais. C'est une contribution pour la mise de fonds. Mais là, ça vient d'être augmenté à 35 000 par personne. Donc, 70 000 par couple. Mais il vient de s'ajouter à ça, là, quelque chose que je trouve vraiment hallucinant. Le gouvernement a décidé de faire un prêt de l'équivalent de 5 %, comme dans votre cas, ça serait 5 % parce que c'est une propriété existante. Puis ça, c'est un prêt sans intérêt, pas de remboursement, que vous devez rembourser lors de la revente.
Puis ça, c'est le fédéral qui fait ça? Et il veut vraiment qu'on vote pour lui?
Ah oui. Puis en plus, le rap, là, si je reviens à ce programme-là, c'est vraiment pour les nouvelles acheteurs.
Oui, mais moi, j'ai accroché sur le prêt sans intérêt par le fédéral. Ça me parle, tu vois. Là,
ah ben oui, mais ça, je savais que ça allait être hyper
populaire. Ça nous parle, hein, François, ça. Ça
oui,
nous parle.
Pas mal.
Ouais.
Mais le rap est quand même plus intéressant.
Il peut faire ça quand, là? C'est là, à partir de
septembre. Ça a l'air que c'est à partir de septembre.
Septembre prochain.
Parce que là, ils viennent de mettre ça en place. Puis là, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est une promesse politique. De pré-campagne électorale. Mais dans les faits, là, un gars comme François, il fait comment? C'est quoi la logistique? Ça, c'est pas encore tout à fait en place. Parce que, entre autres choses, avant, les gens qui pouvaient rapper, c'était les acheteurs de première propriété. Et les gens qui, ça faisait 5 ans qu'ils étaient pas propriétaires, pouvaient aussi se requalifier.
Oui, est-ce qu'on peut 5 ans après?
Oui, ça, c'est encore là. Mais là, ils ont ajouté une règle. Si tu te sépares, là, c'est comme si tu deviens...
Tu repars à zéro?
Ouais, là, tu repars à zéro dans la vie, puis là, tu as le droit de te racheter une nouvelle maison avec ton rêve.
Ah, ils sont fins. François, en tout cas, on a compris. Attendez en septembre, parce que vous allez pouvoir bénéficier de règles vraiment plus intéressantes. Mais dites à votre propriétaire, regarde, moi, l'acheter, là. Mais donne-moi 6 mois. Ça ressemble à ça.
Peut-être que le propriétaire pourrait le financer.
Ah, ça, c'est une autre affaire de demander à votre proprio s'il est intéressé à vous financer.
Il y aurait peut-être même la location avec option d'achat. Fait qu'il y a toutes sortes d'options là, qui peuvent être considérées pour François.
Bon, bien, c'est super encourageant, sans François. Mabrouk, comme on dit. À tout de suite, tout le monde. Lisa, vous avez une question sur la mise de fonds?
Oui, dans le fond, moi, j'aurais aimé ça savoir. Mon conjoint veut s'acheter une maison l'année prochaine. On est dans la mi-vingtaine. Puis on n'a pas les 20 % pour la mise de fonds dans le fond. Puis on aurait aimé ça savoir, est-ce que ça vaut la peine de mettre plus que 5 %?
Bien.
Peut-être James là-dessus?
En fait, c'est une maison unifamiliale que vous voulez acheter, une maison?
Pardon?
C'est une maison unifamiliale que vous voulez acheter?
Oui.
Donc, c'est ça. Avec les assureurs hypothécaires comme les CHL, Genworth ou Canada Guarantee, vous pouvez mettre seulement 5 % de mise de fonds. Et dans le fond, vous payez une prime avec eux autres, puis là, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 %. 20 %, c'est pour vraiment ne pas avoir l'assurance hypothécaire. Donc, pas besoin d'avoir 20 % pour acheter.
Sauf que, moi,
Dans le fond, c'est de savoir, mettons, est-ce que si on a, mettons, le montant pour, mettons, mettre 11 %, est-ce qu'on est mieux de mettre le 11 % ou de mettre juste 5 % que ça ne vaut pas vraiment la peine?
Bien, en fait, en immobilier, on veut toujours aller chercher le meilleur effet de levier. Fait que là, tout dépendant, il faut analyser c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Avez-vous des besoins, voulez-vous faire des rénovations? Avez-vous besoin d'argent pour faire autre chose? Donc, vous avez la possibilité à l'achat de mettre seulement 5 % de mise de fonds. Si vous mettez 11 % puis vous les refinancez par la suite, vous ne serez pas capable d'aller rechercher cet argent-là.
Bien, par expérience, puis Martin, tu pourras enchérir. Isa, moi, par expérience, quand c'est une maison unifamiliale que tu veux habiter, c'est t'as pas de locataires qui vont t'aider à payer tes revenus de par exemple tes taxes, tes c'est pas déductible d'impôts. Donc ton 15% de CHL, il te coûte cher. Moi personnellement, quand je faisais le calcul, je trouvais que c'était pas rentable, que si vous avez l'argent, mettez-le pour éviter. Es-tu d'accord, Martin? Il vaut mieux mettre 20%.
Parce que ce 20%-là, donc
il va te coûter cher, le 15%.
Ouais, d'un côté, ça coûte cher, puis ça coûte tellement cher qu'en fait, c'est que tu pourras jamais avoir un meilleur rendement sur ton argent. Fait que cet argent-là, si tu as la possibilité de te rendre, par exemple, à 10% de mise de fonds,
c'est déjà ça,
parce que la prime va être beaucoup moindre que le minimum.
Les banques aiment pas ça, 5%, hein, en plus. Ça peut être difficile, surtout dans la vingtaine.
Ben,
si t'as pas un parent qui est pas loin pour co-signer, ça peut être difficile. Merci beaucoup, Isa. On a Stéphane avec nous qui a déjà rappé. D'ailleurs, là-dessus, j'en profite pour dire beaucoup de gens m'ont fait des mises au point. Ils disent qu'avec le fonds de la FTQ, on peut rapper à condition que ça soit fait dans le cadre du fonds FTQ. Et il y a même quelqu'un qui me dit, quand tu rembourses ton RAB, ça doit être remboursé dans le fonds. Donc, ça augmente ton REER du fonds, finalement.
Ah oui, ça fait du sens.
Que renseignez-vous là-dessus, mais c'est possible. Stéphane, vous avez déjà rappé, vous?
Oui, bonjour.
Et vous voulez rapper à nouveau, c'est ça?
Oui, ben c'est ça que je me demandais, parce que j'avais rappé, bon, en 96, lorsque j'étais pas mal plus jeune. Aujourd'hui, je me retrouve à 48 ans avec un revenu annuel de 96 000. Et puis, bon, j'ai pas pu acquérir de maison avant là, que j'aurais la possibilité d'en acquérir une deuxième. Et puis, je me demandais à 48 ans, est-ce que c'est encore...
Si ça fait plus de 5 ans, hein, Martin,
c'est ça.
On peut rapper à nouveau.
C'est ça. Il faut juste que ça fasse 5 ans que vous n'ayez pas été propriétaire. Puis 48 ans, ben oui, tout à fait, parce que le RAB, dans le fond, vous avez 15 ans pour le rembourser.
Donc, c'est merveilleux.
Okay.
Fait que 63 ans, c'est le 40 d'il n'y a pas longtemps, dans le fond.
Tout à fait. Hey, merci beaucoup. Avec l'oratoire, on a eu un peu moins de temps pour répondre à tous les appels. Les lignes sont pleines. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les condos. Je vous promets qu'on va faire une heure juste sur la copropriété en condo, parce que juste ça vaut la peine d'en parler. Martin Provencher, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
James Martel, merci d'avoir été là. Tous les gens qui veulent appeler, restez là, bougez pas. Puis tous ceux qui veulent me parler également, on enchaîne après les nouvelles. On va parler des heures d'ouverture des magasins. Est-ce qu'il faut les réduire ou les augmenter? À tout de suite, tout le monde.